I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber.
Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Michel Mounz, qui est auteur, scénariste, mais aussi musicien. Michel, c'est un grand plaisir de te recevoir. Alors, en quelques mots, tu peux nous dire les grandes lignes de ton parcours, j'appellerais ça de la musique à l'écriture, quelque part.
Oui, même à la réalisation, qui était quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas dans la vie. Je suis né à Grenoble, j'ai grandi à Grenoble. Mes parents auraient rêvé que je fasse de la médecine. Mon père était dentiste ou peut-être avocat. Et j'ai essayé de leur faire plaisir, mais c'était impossible. Je voulais faire de la musique. Et j'avais un groupe de rock, je voulais faire du rock, je voulais faire des chansons. Et puis en fait, j'ai composé à Grenoble mes chansons, j'ai enregistré mes maquettes la nuit. Le matin, je partais à la fac en essayant de jouer le jeu. Et puis un jour, les éditions Chapelle, qui était une édition assez importante à Paris, m'ont appelé, parce que j'avais envoyé mes cassettes partout, et m'ont dit « ce serait bien que vous veniez à Paris et que vous veniez composer des chansons pour… »
Oui, c'est original.
Et comme mes parents ne voulaient pas, l'éditeur, le directeur artistique de l'édition, est venu à Grenoble me chercher, ce qui était quand même un super défi. Enfin, c'était formidable pour moi. Donc là, ils se sont inclinés et je suis parti à Paris début des années 80.
Mais études, tu avais quel bagage, toi, côté études? Tu avais été finalement assez...
Rien, j'avais fait une année de médecine catastrophique.
Tu étais autodidacte, vraiment.
Et puis, 3 mois de droit avant de quitter tout pour...
Pour la ZIC, comme on dit. Ouais. Mais donc, tu avais vraiment une âme créative, artistique, même quand tu étais ado, comment t'écrivais, tu griffonnais, t'écoutais beaucoup de musique, t'étais inspiré de tout ça, quoi.
Oui, je griffonnais, je remplissais des cahiers, je voulais faire du cinéma, je m'en suis aperçu tardivement que c'était ce que je voulais faire, alors que la musique avait pris le dessus. Et c'est ce que j'ai fait, je suis arrivé à Paris, j'ai composé des chansons, j'ai fait un peu de musique de pub, et puis je commençais à gagner ma vie avec, ce qui était assez agréable. Et puis un jour, j'ai rencontré, dans cette période-là où on fréquente les restaurants du show business, il y avait les gens du Sentier, les juifs séfarades du Sentier, qui fréquentaient les mêmes restaurants. Et j'étais fasciné par eux. J'en ai rencontré, je suis devenu copain avec certains et j'ai traîné avec eux. Et je me suis aperçu que j'étais comme dans un film de Scorsese sans les armes. Quoi.
Donc, les affranchis, sauf que c'était des feuges.
C'était des feuges et c'était la fête tout le temps. Quoi. Donc j'étais, je dis souvent que...
Là,
moi,
on
je
était
suis...
quoi dans les, on était années... Là, tu avais quoi, 25-30 ans à ce moment-là?
J'avais en fait 25 ans. Et comme je dis souvent, je suis un Ashkénaze, donc j'ai connu dans mon enfance le judaïsme du malheur. Et j'ai découvert avec les séfarades le judaïsme du bonheur. Donc ça m'a bien plu. Et ça m'a donné envie d'écrire un roman. Et j'ai écrit un roman. J'avais une obsession, c'était le mariage mixte, c'est-à-dire l'union entre un juif et une non-juive, ou le contraire, qui me paraissait très complexe et très difficile dans cette époque, aujourd'hui. Et j'ai écrit ce bouquin qui se passe dans le milieu du Sentier, avec des personnages d'ailleurs. J'avais déjà Serge Benhamou, il y avait déjà des Dove, enfin des gens... Et
C'était Kosher, redis le nom.
Rock Kosher.
Rock Kosher.
Qui est paru chez Flammarion.
Et là, l'envie d'écrire ce bouquin, c'est que tu sentais que là, c'était l'écriture. Tu voulais vraiment te réaliser comme sur l'écriture.
C'était vraiment quelque chose. Je n'ai jamais vraiment.
Oui, il n'y avait pas de plan, quoi. C'est venu spontanément avec cette vie que tu avais et tout ça.
Absolument. C'est-à-dire que je me suis dit, ça, il faut que je le retranscrive. La photo me paraissait. J'étais pas bon en photo. La musique ne suffisait pas. Je continue à faire de la musique, mais ça suffisait pas à raconter ce que je vivais, et j'ai eu envie de l'écrire.
D'exprimer, quoi.
Voilà. Par hasard, au moment où je terminais ce manuscrit, j'ai rencontré une fille qui m'a dit, tiens, si tu veux, je pourrais le lire, je suis agent littéraire. et je pourrais essayer de le présenter à des éditeurs.
C'était quels éditeurs qui finalement ont suivi ?
Alors j'ai d'abord rencontré les éditions Lattès et ensuite c'est chez Flammarion où il y avait une éditrice qui depuis est morte mais qui était vraiment une grande éditrice qui s'appelait Françoise Verny et qui était là, on disait la papesse de l'édition et qui avait une voix comme ça, très caverneuse et qui m'a laissé un message que j'aurais dû garder sur mon répondeur Panasonic de l'époque qu'on rapportait à cette époque-là de New York parce qu'on n'en trouvait pas en France et sur cette voix je me rappelle qui m'a dit j'aimerais bien vous rencontrer. Voilà,
ça et a basculé là, ton destin a quelque peu basculé. Tu vivais où à ce moment-là à Paris, pour qu'on se situe dans l'ambiance?
J'habitais à Neuilly, dans un petit studio à Neuilly, où j'avais toute une bande aussi. Ouais. Et c'était une période assez douce. Et cette période, oui, de cette période est née donc Rock Cacher. Et après Rock Cacher, qui était très écrit, dialogué, très vivant, comme écriture, enfin très spontané, j'ai commencé à avoir des propositions de producteurs.
Pour le cinéma, donc pour peut-être l'adapter. Et donc entre Rock Cacher et La Vérité si je mens, parce qu'évidemment là on arrive à un des plus grands succès et pour moi une des meilleures comédies. Donc, mais ça on doit te le sortir souvent évidemment, mais t'es quand même un sacré film. Cette jointure, elle a duré combien de temps entre la nouvelle et le film ?
Alors, j'ai une petite anecdote parce que dans la production de La Vérité, il y a un producteur qui s'appelle Manuel Muns, qui a donc le même nom que moi. Et ce Manuel Muns, sa famille est de Lyon et moi, la mienne était de Grenoble. Et il a un parcours sans faute. Alors lui, moi,
oui, il avait fait Polytechnique et tout ça, je crois.
Oui, plus jeune bachelier de France, Polytechnique, l'ENA, enfin... tout. Et à chaque fois qu'il réussissait un nouveau palier, il y avait un article sur lui dans Le Progrès et Le Dauphiné, qui étaient les journaux locaux.
Donc tes parents, ils disaient, mais va voir Manuel.
Non, c'est surtout mes parents, ils recevaient les félicitations pour leur fils.
Ah, et c'est
donc,
drôle, ça.
Moi, je ne le connaissais pas et il me pourrissait mon adolescence parce que mes parents me disaient, c'est pas possible, j'ai encore reçu des félicitations.
Ils se plantaient dans le truc, tu recevais
c'est, non, c'est... mais d'amis qui ne savaient pas trop,
oui,
de gens
confondaient.
Voilà, qui nous confondaient. Et donc, ce Manuel que je ne connaissais pas me gâchait mon adolescence et un jour, après avoir écrit ce bouquin Rock Cacher, je suis invité à un mariage et il y a quelqu'un qui me tape sur l'épaule et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Manuel Muns et je viens de lire Rock Cacher et je voudrais acheter les droits du livre. » Donc c'était drôle parce que c'était comme une sorte de revanche sur...
c'est incroyable, hein, c'est coup du destin. Et là, c'était combien d'années après la nouvelle ? C'était avec une trentaine.
Alors donc j'avais... oui, c'était le livre est sorti en 88 et dès l'année suivante, on m'a proposé de l'adapter. Ce qu'on a essayé de faire, j'ai donc vendu les droits à Vertigo Productions, que Manuel Muns montait avec Aïssa Djabri et Farid Lawassa, ils étaient trois. Et moi, je découvrais le milieu du cinéma, surtout je n'avais jamais écrit de scénario, mais ils étaient persuadés que je pourrais y arriver.
Il avait produit le film de Clapiche, non ?
Voilà, il venait de produire Le Péril Jeune.
Oui, Le Péril Jeune, quand même pas mal.
Non, pardon.
Non, chacun cherche...
Non. Ils avaient produit encore rien. À l'époque, et ils montaient leur boîte de production.
Ah oui,
et d'ailleurs, le scénario de Rock Cacher est dans leur capital social, si on peut dire, de
D'accord.
Vertigo.
Okay.
Puisqu'ils ont monté la boîte autour de. Là, c'était en 88, c'était bien avant. Et on a essayé de monter le film, on a eu l'avance sur recette, mais il y a eu des histoires avec le réalisateur pressenti. Bref, les choses se sont arrêtées.
Qui n'était pas Thomas Gilles, donc.
Non.
Tu peux pas le préciser, tu peux pas trop le dire. Peut-être qui était le réal à l'époque.
En fait, comme ça s'est mal passé, mais en même temps, voilà. Non, c'est la vie aussi des films qui se font ou qui ne se font pas. Mais
ça s'est pas fait sur le premier coup, entre guillemets. C'est
voilà.
Ça.
Et à partir de là, en revanche, j'ai rencontré des gens qui, sachant que j'avais écrit l'adaptation de mon bouquin, m'ont proposé d'écrire pour la télévision. Et donc j'ai écrit des séries et j'ai appris mon métier parce que je ne connaissais rien. Je me souviens que j'avais rendez-vous avec, à l'époque, il y avait déjà des showrunners pour des séries.
Tu avais secondé, non ? J'ai vu, tu avais fait Extrême Limite,
secondé. J'avais démarré en fait sur une série sur la 5 qui s'appelait Tendresse et Passion. Et j'écrivais, je crois que j'ai écrit 52 épisodes de cette série. Donc c'était vraiment en même
déjà
temps...
déjà dans les séries, quoi.
Et en même temps, ça m'a permis d'apprendre vraiment mon métier. Et puis j'écris une série qui s'appelait Salut les homards, qui avait une particularité, qu'elle était interactive. Et c'est-à-dire qu'on posait une question à la fin de l'épisode, les spectateurs votaient sur Minitel à l'époque, et on tournait selon leurs réponses. Et c'est là que j'ai rencontré Gérard Bitton sur cette série, et on a sympathisé. Et au bout d'un certain temps, je lui ai dit, écoute, j'ai voulu faire une adaptation de mon roman. Ça n'a pas fonctionné, je n'ai pas pu la faire, mais je suis sûr qu'on peut faire une comédie sur le sentier. Et il m'a dit pourquoi
pas.
Parce
que ta nouvelle, sans faire toute la trame, c'était un peu une chronique, telle qu'on comprend. Il y avait un côté, il y a pas forcément une. T'avais un arche narratif sur quel thème ?
Il y avait une comédie. C'était plus romantique puisque c'était une histoire d'amour compliquée entre un juif et une non-juive, ce qui a été inversé dans La Vérité 1 puisque c'est un non-juif qui rencontre une juive. Mais le sentier n'était qu'un décor. Voilà. Les personnages principaux, ça se passait entre la musique. C'était très autobiographique et il y avait mes personnages, mais il n'y avait pas d'histoire autour d'eux. Il y avait la description de Serge Benhamou comme mythomane flamboyant, mais il n'y avait pas d'enjeu sur eux, il n'y avait pas de...
Je comprends. Voilà.
Mais on s'est dit, pourquoi ne pas essayer de prendre que ces personnages et d'en faire un film. Et donc, j'ai présenté à Gérard la plupart de mes copains qui me disaient, mais enfin, on n'est pas des héros de cinéma, on fait des vêtements, enfin, ça n'a aucun intérêt.
Gérard, lui, à ce moment-là, il était déjà scénariste.
S'était rencontré sur cette série Salut les homards. Il était peintre au départ et il avait fait du scénario pour gagner sa vie.
Ah bah, c'était un bon binôme. Toi, c'était musique, lui, c'était peinture.
Absolument.
Vous aviez shifté de création.
Ouais. Lui aussi était assez marginal dans l'idée de pas... Il a quand même des études poussées de philosophie, lui, il a... des SS de philo, donc, mais il avait toujours envie d'être libre et on s'est bien entendu et on a commencé à écrire.
Ok, et donc là c'est de manière autonome que vous vous dites on veut redonner une vie à ce projet, quoi. C'est...
Oui, alors pas forcément à Roch Kacher, mais de Roch Kacher, je lui ai dit faisons un film sur ce milieu qu'il ne connaissait pas bien, lui, il connaissait plus le milieu du sentier Ashkenaz par son père, mais c'est allé vite et puis voilà, c'était assez joyeux de refaire le tour et puis on a commencé à écrire et puis surtout on a eu cette idée qui est assez classique dans l'histoire du scénario mais qui marchait bien là, c'est le poisson hors de l'eau, on appelle ça, donc comment un type
hors du bocal
voilà, nous fait visiter puisque lui-même est un étranger dans ce milieu-là.
Et nous avec fait l'astuce découvrir. De la Magen David, qui voilà. était... il paraît que ça, vous aviez mis du temps à le trouver, ça c'est vrai ou
ouais,
pas
ouais, 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 ouais. Il fallait trouver un artifice un peu possible. Voilà. Donc on l'a trouvé, je crois qu'on l'a trouvé effectivement assez tardivement.
Parce que tout le scénario, là, la période de gestation du projet, tu dirais, a pris combien de temps sur La Vérité si je mens au global?
Alors en fait, le film a été... On a proposé le projet à un producteur à l'époque qui faisait essentiellement de la télévision. Et qui était lui-même juif séfarade, mais qui avait un complexe par rapport à ça. Et quand on lui a remis le scénario, il ne l'a pas assumé. Quoi. Il a considéré que ça n'allait pas, il a trouvé que c'était vulgaire, il a trouvé qu'il n'assumait pas ce film. Donc il nous a laissé partir. Je pense que ça s'en est mordu les doigts après, mais bon, lui-même ne se voyait pas produire ce film. Et en allant à la piscine, dans le 20e où j'allais à ce moment-là, je tombe sur Aïssa, l'un des trois producteurs de Vertigo, et je lui dis, écoute...
Par hasard, t'es tombé dessus ?
Et par hasard.
Donc c'est comme Emmanuel Mounz, l'autre il te tapait dans le dos au mariage, là lui tu le croises à la piscine.
Alors qu'on avait fait ce
sans premier... savoir qu'il était associé avec l'autre en plus.
Si, je savais.
Ça tu savais quand même.
Non, on s'était même rencontrés pendant le développement de Roch Kacher. Et je lui dis, écoute, c'est marrant parce qu'on est en train de développer un film sur le sentier qui nous rapproche de Roch Kacher. Est-ce que ça vous dit de le lire ?
Et là, tu avais le script déjà fini.
Ouais, ouais. J'avais la première version qui se terminait un peu différemment, qui n'était pas une fin aussi assumée, qui était plus une fin ouverte. Et il m'a dit, ok, fais-moi lire. Et je me souviens, parce que je l'ai su après, que la femme de son associé, Farid, a été la première à le lire. Nathalie Bialobos, elle s'appelle, elle était casting et elle leur a dit un jour, elle a lu le scénario, elle est allée dans leur bureau, elle leur a dit « Si vous voulez être riche, produisez ce film. »
C'est une bombe, elle a dit, quoi.
Un peu.
D'accord. Et dis donc. Et donc là, après, donc, le choix de Thomas Gilou, j'imagine, a été clé.
Alors, ils étaient très proches de Thomas Gilou et ils venaient de faire, alors là, pour le coup,
ils avaient fait Black Micmac de mémoire.
Alors ça
c'était encore
fait,
avant.
Mais ils avaient fait Rai avec Thomas
Gilou. Ah oui, Rai avec Samina Seri.
Absolument.
D'accord.
Et ils venaient de faire, donc là, Le Péril Jeune et Chacun cherche son chat.
Il est juif, Thomas Gilou ?
Non.
Il a un peu d'origine.
Voilà. Il y a, je crois, grand-mère ou grand-mère.
D'accord. Et c'est vrai que La Vérité si je mens, là, on plonge en flashback tous les auditeurs, parce que c'est quand même une comédie incroyable. Faudrait, ça donne envie de le revoir. D'ailleurs, c'est quand même le genre de film qu'on voit, qu'on revoit. Mais c'est vrai que alors, le scénar était génial, mais c'est vrai aussi que le casting était incroyable. Ouais, je ne sais, sais pas si tu as suivi cette phase.
Non, là, c'est vraiment le don de Thomas. Thomas a tout de suite, d'abord, il a retranscrit le film tel qu'on l'imaginait, ce qui nous a plu. Et puis, il a fait un travail de casting. Il a eu l'idée, par exemple, je sais, de Elie Kakou, qui était à l'époque...
Ah oui, à l'époque, avec les chemises, là. Ouais. Ça fait beaucoup de carreaux, quoi.
Ouais, exactement. Et qui était qui n'avait jamais fait de cinéma avant. Il y a eu un casting compliqué, beaucoup de refus. Hein. C'était un film qui a été difficile à monter. Et les gens nous disaient, mais qui ça va intéresser ? C'était un peu la phrase qu'on nous disait. Donc,
côté acteur, tu veux dire ?
Les acteurs ont refusé parce que, en fait, ce qui était compliqué à l'époque, alors que le cinéma américain, que ces acteurs-là adorent, n'hésite pas, par exemple... Tout le cinéma des années 70 italo-américain de Coppola, ce sont des Italiens d'Amérique
De Niro, Pecci, voilà, etc.
Et qui étaient contents de montrer leur culture. En France, il y avait cette peur, notamment des Juifs séfarades.
Oui, de trop affirmer.
Absolument. Et qui voulaient.
On n'en parle même pas d'aujourd'hui, hein, parce que si à l'époque c'était comme ça, maintenant c'est encore autre chose.
Oui, c'est vrai. Et donc on a eu beaucoup de refus pour ça. Je ne veux pas être associé. tout ça.
Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs ne sont pas forcément juifs, hein, parce qu'il y en a plein du film.
Absolument.
Qui n'étaient pas forcément, d'ailleurs.
Je crois que c'est la qualité du film, c'est d'avoir mélangé, de n'avoir pas pris des gens pour leur, ni leur religion, ni leur culture, mais pour l'incarnation qui pouvait...
Alors, les dialogues étaient super savoureux aussi. Ça, c'était... Tu as passé ta vie dans le 4e et le 3e arrondissement. Il y avait vraiment un travail où tu notais les petites phrases et tout ça, parce que c'était une des forces aussi, les dialogues.
Oui, alors en fait, le truc, c'est que, sans la ramener, la plupart des dialogues qu'on entend ne sont... je veux dire... C'est nous qui les avons inventés, Gérard et moi. La seule chose qu'on avait en allant dans le sentier, c'est la musique. Dans le sens où on entendait plein de choses, plein de conneries, une rapidité dans les réponses, dans les vannes et les trucs. Mais quand on revenait et qu'on avait noté nos vannes, ça ne marchait pas dans notre script. Il fallait qu'on trouve d'autres vannes, d'autres qui étaient plus appropriées. Mais ça nous stimulait parce qu'ils sont tellement inventifs, ils inventent tellement de choses drôles. Ils sont tellement dans le jeu tout le temps.
Donc les acteurs, là, ils ont pris à leur main. Il y avait des petites retouches, évidemment.
Très peu. Dans le 1, quasiment pas. Je pense que dans le 1, c'était carrément tout ce qui était écrit. En plus, c'était des acteurs qui n'étaient pas aguerris, à part Richard Conina. Les autres étaient peu connus. Bruno Solo, un peu. José par Canal+, mais c'était très parisien.
Elbaz, il démarrait. Il était,
Elbaz, il avait fait... il était dans Le Péril Jeune.
Oui, mais... c'est vrai qu'ils étaient tous finalement pas très connus. À part Boringer, qui effectivement, lui, avait un peu plus de stature.
Ouais.
Et Amira Khazar, elle devait démarrer. C'était une vraie révélation aussi. Hein,
comme Oratica. Pareil.
Et c'était un sacré casting.
Et le mieux,
hein.
C'est comment il s'appelle, Gilbert Melki.
Gilbert Melki, alors lui, il fallait le sortir.
Il sortait de théâtre de Brecht pour venir faire le pied noir. Quoi,
quel personnage. Et du coup, et toi, alors, quand tu as vu le film fini en projection, tu t'es dit, ah ouais, c'est vraiment le scénar qu'on avait. Tu avais dû être content quand même.
C'était merveilleux. Je me souviens qu'on était dans une projection au film 13 Avenue Hoche
Lelouch.
Et il
était là, Lelouch, pendant cette projection?
Non, il n'y était pas.
Il avait dû le voir.
Sans doute. Et c'était une projection de presse. On a entendu les gens rire, ce qui n'est pas évident dans les projections de presse. Et puis, effectivement, on s'est dit, il se passe quelque chose. Mais c'est vrai qu'on ne mesurait pas à quel point il allait se passer quelque chose. Je me souviens que le jour de la sortie...
Cette musique et aussi le côté festif du film qui était assez incroyable aussi. Hein.
Et pareil, il y a quand même des signes assez drôles. C'est qu'on habitait dans le 20e, Gérard et moi, on n'habitait pas très loin l'un de l'autre. Et on allait tous les midis dans un petit restaurant où il y avait un éditeur de musique, un petit éditeur de musique qui semblait avoir connu... Je crois qu'il était plus ou moins associé avec le frère de Dalida,
Orlando.
Enfin, en tout cas, ils avaient fait des choses ensemble. Et puis, il nous dit, ah là là, c'est marrant, je viens de signer un contrat pour mon artiste et elle va faire le générique d'un petit film qui va sortir. Alors qu'on le croisait tous les midis dans ce restaurant et on lui dit, mais c'est quoi ? Il me dit, eh ben moi, je produis une artiste qui s'appelle Alabina et elle va faire le générique de La vérité si je mens. Et on lui a dit, mais c'est nous qui l'avons écrit. Ce qui était fou, quoi, parce que Paris est grand quand même. Oui. Et on se retrouvait dans le même resto.
Et donc, le film, il a fait donc, quoi, 5 millions, 6 millions
Il a fait 5 millions d'entrées, le premier.
Bien sûr. Et ensuite, le deuxième a dû faire au moins 4 millions.
Et le deuxième en a fait 8.
8 quand même. Ah oui, le deuxième était avec Benabou Beach, le deuxième, on voilà. est d'accord. Hein.
Ouais. Et ce qui était effectivement, c'est la, je crois que c'était la, je crois que Taxi avait fait un peu pareil, c'est que la, on devait être le deuxième film où le second volet fait plus que le premier, puisqu'à l'époque, il y avait déjà des suites, mais les suites étaient souvent inférieures.
Après, je trouve qu'en plus du succès en salle, ce qui est incroyable, c'est que c'est un film qui fait partie pour moi du patrimoine, j'allais dire de l'UNESCO, enfin du patrimoine, on est au niveau des Dîners de cons, des Bronzés, on fait partie des, pour moi des top 10, des grandes comédies, on peut les voir dans 10 ans. Je sais pas, comment tu l'expliques, c'est dur, toi t'as fait le truc, mais comment tu te dis ce truc, il a autant tenu dans le temps en fait?
D'abord c'est vrai parce que moi je me rends compte, j'ai des enfants et je vois à quel point il y a des films qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne connaîtront jamais, et je vois La Vérité si je mens, leurs potes, tout le monde connaît.
Donc, culte, comme on dit.
Il me semble qu'il y a des films.
Tu lui attribuerais le côté film culte? Alors je suis devant
moi,
un terme de Pulp Fiction. J'aime pas trop le terme de film.
Non, j'adore, c'est formidable.
Si, il est culte pour le cinéma français, je trouve.
Le truc c'est que j'entendais ça souvent, c'est que les gens me disaient « Normalement, j'aime pas les films français, mais… »
Là, j'ai bien aimé.
Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait…
Un côté entertainment, je trouve, qu'on a retrouvé dans ce film.
Il y avait ce truc de… Dans le rythme, on sortait du côté un peu, comment dire, académique du, du cinéma français, parce que ça allait vite, parce que c'est des tchatcheurs, parce que la mise en scène était super rythmée.
C'est vrai.
Parce que… c'était comme à l'époque à l'américaine, voilà. Donc
c'est marrant que tu cites Scorsese parce que ça me paraissait pas évident, mais maintenant que tu le dis, c'est vrai. Il y a vraiment, par rapport à ce qu'il a créé dans,
alors c'est dans les franchises,
il est moins dans les comédies, mais quoique il y a quand même des scènes un peu
très drôles,
mais c'est vrai, ce côté recréation d'un univers avec une communauté qu'on connaissait pas très bien, parce que finalement les Français connaissaient sans connaître trop les Juifs comme on dit, mais ça a permis de connaître tout cet univers finalement et de le rendre plus grand public et généreux finalement. Ça donnait une image aussi peut-être plus positive que dans Qu'est-ce qu'on a fait le bon Dieu ou...
Oui, je crois qu'à l'époque...
Il y avait une image positive de tout ça, c'est ça que je veux dire.
À l'époque, il faut se souvenir que les Juifs pieds noirs, c'était la Rolex et Deauville, quoi. C'était vraiment une caricature totale. Les gens ne les connaissaient pas. Il y avait quelque chose d'assez péjoratif dans leur manière de les décrire. Et moi, je me souviens même qu'on avait même... Il y avait des messages qui arrivaient de villages dans Bretagne où ils étaient allés voir le film et qui demandaient s'ils existaient vraiment. C'est-à-dire qu'il y avait une méconnaissance complète de ce quartier du Sentier. Et puis, je crois aussi que ce que ce film a apporté au cinéma français, en général, par rapport aux films qui ont eu lieu après, c'est la découverte d'une France de village et pas forcément une France d'un peuple unique et uniforme et unicolore. C'est-à-dire, les gens se sont rendus compte qu'il y a en France des communautés différentes, et il y a eu ensuite une petite mode de films montrant certaines communautés, qu'elles soient professionnelles ou culturelles.
Après, il y a les Ch'tis qui étaient une petite communauté qui a pas mal cartonné.
Exactement,
aussi.
Exactement, petite communauté française.
Et donc, sur le sens, après on va parler d'autre chose que La Vérité si je mens, évidemment, mais quand même, sur ce que ça racontait finalement, c'était cette love story, tu dirais, ce côté Roméo-Juliette un peu des temps modernes, et puis aussi il y avait un message de tolérance et un peu de rejeter le côté parfois trop cloisonné de la communauté. Et puis, il y avait à côté, en toile de fond, il y avait aussi une espèce de success story, d'ascension d'Anconina. Donc, c'était vrai que c'était des thèmes pas très français, finalement, parce qu'il avait un côté self-made man, un peu à l'américaine.
Ah oui.
Finalement, c'était quoi qui te tenait le plus à cœur dans cette histoire?
Oui, il y avait ça. Il y avait le côté self-made man, il y avait le côté décomplexé par rapport à l'argent, puisque c'est des gens qui parlent d'argent, qui montrent de l'argent et qui n'ont pas de...
Ça, c'est pas très français, quoi, déjà.
Absolument. Et notamment, associé à la communauté juive, c'était vraiment un tabou qu'on a levé.
On a brisé, quoi.
Ouais. Y a ces choses-là, effectivement, qui n'étaient pas habituelles.
Plus ça que la love story, ou pour toi, ça faisait partie d'un tout?
Oui, la love story est passée derrière. C'est drôle parce qu'il y a une fois, il y a quelqu'un que je connaissais qui me dit « J'ai beaucoup aimé, parce que la fin, Richard Anconina, donc non-juif dans le film, épouse la fille de son patron qui est juive, et j'ai un copain juif qui m'a dit « Écoute, j'ai adoré le film, mais c'est dommage que vous n'ayez pas fait une happy end. » Donc je trouve ça...
par le fait qu'il n'était pas juif. Oui, donc il n'avait pas compris le film, lui. Hein. D'accord, il n'avait pas totalement compris. Mais toi, quel regard, alors c'est plus là, je sors du sujet, mais quel regard toi tu portes sur le judaïsme en France, qui peut être, entre guillemets, parfois, on peut le dire, un peu plus cloisonné qu'en Angleterre, aux États-Unis?
Alors,
quel est toi le regard que tu as maintenant? Alors, après, je dirais qu'après que l'eau a coulé sous les ponts, peut-être plus de 20 ans après, Quel est ton regard sur tout ça, peut-être ?
Non, d'abord, le regard, les choses sont différentes. C'est-à-dire, au moment où on a fait... Le cloisonnement, il est plus aujourd'hui où les communautés... Je trouve le communautarisme, en général, c'est amplifié dans le monde et en France aussi, où on revendique très vite sa communauté, son essence et tout. Mais à l'époque, je pense que c'était plus... pour moi, l'idée, c'était que... On ne mesurait pas la difficulté, je veux dire un truc paradoxal, pour des jeunes juifs à qui souvent on demande de faire des mariages endogames, d'épouser des filles de leur communauté ou le contraire, dans un pays où les juifs sont totalement acceptés, aimés, appréciés, intégrés. Et donc cette barrière-là, qui est une barrière d'éducation, est souvent une douleur, une souffrance. Et c'est-à-dire que ça ne se voit pas dans le film parce que c'est un film joyeux, mais il y avait c'est-à-dire ce problème que Richard Anconina, Eddie, rencontre à un moment donné où...
il n'a pas la quête tout bas, comme dirait le rabbin.
S'il avait dit qu'il était, il dit, vous ne m'auriez même pas regardé. Voilà,
elle est bien cette scène quand il dit à Mira Kazar, c'est la scène un peu plus émotionnelle, tu as les petits violons derrière, mais elle est sincère. Oui, c'est très, très authentique quand il dit ça.
Il y avait quand même cette dimension, et je pense que le film, il est aussi resté par cette petite gravité. Voilà,
ça a donné une profondeur. Je trouve que s'il n'y avait pas eu cette histoire d'amour, ça aurait perdu en impact et en profondeur.
Plus une suite de vannes et de sketchs, quoi. Donc là, il y avait.
En tout cas, c'est intéressant de dire parce que est-ce qu'aujourd'hui, je sais que tu tiens à ce sujet, qu'aujourd'hui l'humour il est beaucoup plus cadenassé et tout est un peu plus au vitriol et on peut moins aller sur des zones possibles. C'est vrai qu'aujourd'hui, raconter cette histoire finalement, ça serait peut-être un peu bizarre. Alors qu'en fait, à l'époque, tu vois ce que je veux dire
un peu. Je pense que l'histoire elle est aussi forte aujourd'hui. Simplement,
d'ailleurs, ça fait penser au film d'une étrangère parmi nous. Tu te souviens de ce film ?
Oui, bien sûr.
Avec Mélanie Griffith. Mais tu voulais dire les regards, c'est ce qui a bougé, c'est le regard.
Non, je pense que c'est aujourd'hui, les gens sont un peu tétanisés par rapport à justement ces communautarismes, le fait de ne pas fâcher les uns et les autres. Je me souviens même à l'époque, les distributeurs avaient très peur d'une scène où Eddie essaye de soudoyer le rabbin pour obtenir un papier qu'il n'a pas de la Ketouba, justement. Ouais. Et donc les distributeurs nous avaient dit, il faut supprimer cette scène, c'est très tendancieux. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Il essaye de soudoyer un rabbin qui lui dit non, voilà, c'est tout.
C'était drôle. Ouais. Et puis ça poussait un peu le truc. Où il disait, ouais, je peux avoir Goldman, je me rappelle. Ça, c'était bon aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il y a des dialogues qui sont vraiment marqués. Mais au moins, oui, vous y alliez. C'est-à-dire qu'il y a des scènes qui... Tu penses des scènes qui aujourd'hui passeraient pas ? Seraient plus censurées, en tout cas ? On ne sait pas, en fond.
On ne sait pas, mais je sens quand même que les gens ont plus peur aujourd'hui.
Mais par contre, c'est intéressant ce que tu dis. C'est qu'aujourd'hui, c'est la peur, c'est la division des communautés. Alors que dans ce film, on en faisait finalement une force, une chaleur. Et c'est peut-être ça qu'on aimerait retrouver aussi en France, finalement. C'est qu'en France, avec tous ces débats de nationalisme, d'hommes politiques ultra refermés sur eux-mêmes, on oublie la force des cultures, qui finalement était la force de la vérité Sigement.
Oui.
Ça racontait ça.
Même, je dirais, par rapport à l'immigration... par exemple massivement maghrébine en France, moi je me souviens que La vérité Sigement et ça reste je crois un film fédérateur justement comme tu disais tout à l'heure de la possibilité de réussir, c'est-à-dire que nos personnages devenaient des modèles d'intégration parce que ils faisaient leur trou alors qu'ils partaient de loin quand même.
Et alors t'as aimé Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Forcément on pose, tout le monde doit te la poser la question, mais t'as le droit de dire non hein, mais
moi, je dis très franchement, j'ai beaucoup aimé le premier. Je trouvais que c'était un postulat formidable. Je trouvais que c'était assez gonflé et c'était effectivement, il y avait dans le même esprit cette envie de
fédérer et de décloisonner
notamment par le personnage de Clavier que je trouvais époustouflant,
qui était très fort, c'est clair. Alors après on arrive à la réal avec Ah si j'étais riche, qui était c'était qui déjà la chanson Ah si j'étais riche?
C'était Yvan Rebroff qui faisait ça.
Yvan Rebroff, d'accord. Elle était bien avec le, donc là aussi on parlait d'argent puisque c'était Daroussin, je me rappelle l'affiche où il était dans des billets, Jean-Pierre Daroussin.
Absolument.
C'était dans le cœur des, il y avait déjà eu le cœur des hommes, non c'était après.
Il y avait le cœur des hommes qui était juste avant, oui.
Il était juste
juste après.
Juste après. Et donc là, tu passes à la réalisation parce que tu disais, vous avez fait votre script avec Gérard et t'as eu envie de passer à la mise en scène.
En fait, au moment où on est allé sur le tournage c'était du 1, puis du 2, puisque c'était juste après le 2, on a vu comment ça se passait Et on a vu quand même là, pour le oui. coup, le respect
du réel, quoi, comme on dit.
Et donc, surtout, on a vu ce qu'on avait connu auparavant, heureusement, on n'a pas connu beaucoup, c'est la manière dont, quand on faisait de la télévision, un script pouvait être entièrement réécrit par un réal ou sabordé au tournage par un réal. Et on s'est dit, prenons pas ce risque. Alors, sur la vérité, on était protégé par la production et puis par Thomas qui faisait très bien son travail. Mais on s'est dit, si demain on confie notre scénario à quelqu'un qui fait n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe?
Donc, d'ailleurs, tu as un droit de regard, le scénariste, sur le choix du réal ou pas tout le temps? Non. En vrai, non, pas totalement. C'est le prod qui, ouais, a, la, ouais. qui a la main. Ouais. Et donc là, ayant fait, donc là, vous le développez avec Téléma, c'est avec Charles Gassot.
On est allé voir Charles Gassot. On lui a dit que on avait une bonne et une mauvaise nouvelle parce qu'on était scénariste. C'est que la bonne, c'est qu'on a un bon scénario. La mauvaise, c'est qu'on veut le réaliser. Et il nous a dit pas de problème.
Ça bon, t'avais un petit, t'avais un petit track record avant. Je pense que là, à ce moment-là, il y avait beaucoup de gens qui pouvaient te suivre, non?
Oui, mais c'était à l'époque, les scénaristes n'étaient pas les personnes qu'on allait chercher pour faire des films. À l'époque, c'était les premiers assistants qui faisaient des films.
D'accord.
Il y avait une sorte de tradition de la technique.
De dogme.
Ouais.
T'avais pas encore. Il y avait pas encore Jacques Audiard. Ah, il devait arriver Jacques Audiard un petit peu.
Oui, mais il était pas encore là.
Lui était monteur à la base, je crois, Jacques Audiard. Je sais pas si tu l'as rencontré lui ou pas.
Non. Non, non.
Mais intéressant à rencontrer, ouais, j'imagine lui. Ouais. Avec, mais je crois que lui, il a fait beaucoup d'années de montage. Hein, il a attaqué sur le tard. Hein. Ouais. Mais il y a un petit cousinage, le fait qu'il.
Ouais, il était scénariste aussi. Hein.
Scénariste, effectivement. Mais ouais. Je crois qu'avant ses années de scénariste, il était déjà monteur. Et puis bon, son père était quand même un sacré auteur aussi. Et donc là, ce projet à Si j'étais riche. Donc t'as aimé cette petite expérience de réalisation, toi?
Ah
ça
oui,
t'a plu?
C'était surtout une période. D'abord, on avait un producteur, Charles Gassot, qui avait vraiment les moyens de nous offrir ces moyens-là. Justement.
Qui avait fait Tanguy et tout ça, un grand.
Pas encore fait.
Mais Châtillier, en tout cas, il y avait. Révéler Châtillier.
Et surtout, c'était les années où le cinéma, c'était le cinéma chic. Quoi. Enfin, il y avait je me souviens que c'était une période où, pendant la tournée d'avant-première, on faisait plein de villes. Le film a été très bien reçu à l'époque. C'était vraiment super. Et parce qu'on avait besoin d'aller... Il y avait une autre ville, je me souviens, je crois que c'était Salanches, où ils voulaient absolument, le patron du cinéma, qu'on vienne faire l'avant-première. UGC qui distribuait le film a dit pas de problème, on vous envoie, on est parti en jet. Enfin, c'était le cinéma, quoi. C'était le cinéma qui lorgne vers Hollywood. Et ça,
oui, il y avait un engouement un peu plus fort, quoi. Même le Festival de Cannes était vachement populaire, était resplendissant. On était dans un moment où le ciné était au top, quoi.
Le truc qui est compliqué aujourd'hui, c'est que le cinéma ne fait plus partie de la vie des gens. Et donc, le cinéma, c'est.
Sauf pour Tom Cruise. C'est une blague. Non, mais Top Gun, il y a encore quelques films fédérateurs, mais des blockbusters.
Mais on y va parce qu'on y va comme on irait une fois au théâtre ou comme on irait une fois au concert. Mais avant,
le rituel, les gens y allaient.
La première sortie, c'était le cinéma. On allait à un dîner, qu'est-ce que vous avez vu comme film? Ce qu'on n'entend plus aujourd'hui. Au mieux, on entend que vous avez vu quoi comme série, mais le cinéma, non, les gens s'en foutent. Donc c'est ça qui change. Et donc il y a moins de moyens parce que c'est moins important pour la vie des gens. Et donc.
Un mot sur la co-réalisation, parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Comment tu as pu. Quelles étaient un peu votre méthode? Quelle était ta méthode avec Gérard?
Alors en fait, on s'est dit, on a regardé comment les réalisateurs qui...
Les Cohen, les Dardenne, t'as étudié tous les frères?
Alors les frères Cohen, ils ont un système, c'est qu'il y en a un qui est particulièrement...
Oui, t'as Joël qui est plus réal et Ethan qui a la prod.
Ouais. Les frères, les Italiens, comment ils s'appellent?
Ah oui, on va retrouver, moi aussi.
Bon, Taviani.
Taviani.
Les frères Taviani, eux, ils sont... Je crois que eux, l'un filme une scène, puis l'autre filme la scène suivante.
D'accord, ils se succèdent, comme on dit.
Et nous, on s'est dit, comme tout nous plaisait, la direction d'acteur, la technique, on voulait toucher à tout, on voulait voir comment ça marchait, on s'est dit, faisons un jour sur deux.
D'accord.
Donc, un jour, c'est moi, je suis à la réalisation, et mon super assistant, c'est Gérard.
Ah, c'est pas mal, ça.
Et donc, parce que, en fait, ce qui se passe dans un tournage, c'est que quand vous avez fini une prise, en tant que réalisateur,
il faut valider, quoi.
Voilà. Alors, tu te tournes vers le chef-op, il te dit, elle est bonne pour moi, mais si ça se trouve, pour l'acteur, elle n'est pas bonne, ou pour le son, elle n'est pas bonne. Mais très souvent, c'est le chef-op qui a raison, parce que c'est lui qui a mis plus de temps à préparer la scène. Donc, si elle est bonne pour lui, on ne la refait pas. Moi, je préfère avoir un super assistant qui a validé le oui du chef-op, mais aussi des comédiens, et qui me dit...
Ça te donne une espèce de recul sur la mise en scène, parce que c'est sûr, quand on est le réal, tout le monde, comme tu dis, se tourne vers toi pour les décisions, donc c'est pas toujours facile, dans l'urgence.
C'est-à-dire, je crois honnêtement que le cinéma gagnerait à avoir deux réals au lieu d'un.
Oui, parce que c'est lourd de réaliser un film, c'est très très lourd. Et donc cette expérience au global, t'as aimé quand même, partie
Non, j'ai beaucoup aimé. Je dis souvent que je préfère l'écriture parce que c'est une vie qui me correspond plus
plus intérieur,
d'isolement, plus intérieur. J'aime écrire, même si c'est beaucoup de souffrance parce que c'est résoudre tout le temps des problèmes. Mais j'aime bien cette position-là. La réalisation, c'est me confronter justement au social, à toutes les questions des gens, à des choses qui sont parfois, qui me paraissent très éloignées de ce que je voulais faire quand je voulais faire le film. Choisir la couleur de la voiture des choses de la voiture qu'on doit filmer ou ce que je comprends très bien, mais j'avoue que suis moins sur... En revanche, la direction d'acteur et puis sentir que ce que j'ai écrit prend cette forme là, c'est
Il y a eu le Cactus aussi avec Pascal Elbé, donc ça c'était aussi une réale que tu as fait par la suite
chez Gasso également. Avait envie de tourner j'allais souvent à Goa en vacances et j'y ai rencontré une faune assez improbable et je me suis dit, tiens, ça vaut le coup de faire une comédie. Donc on a eu cette idée d'un hypochondriaque. En fait, ça s'appelait au départ l'hyperchondriaque. Le titre a bêtement changé. Je pense que hyperchondriaque serait été mieux. C'est un hypochondriaque qui, croyant sa dernière heure arrivée, entraîne son meilleur ami dans un voyage en Inde où il est persuadé de guérir d'une maladie qu'il n'a même pas. Et on s'est beaucoup amusé de la confrontation des cultures, d'une amitié, je dirais, presque weberienne, dans le sens de Francis Weber, où c'est quand même un des deux qui vient pourrir la vie de l'autre.
Si on va dans le processus d'écriture, parce qu'on est dans l'Entertainment Lab, on aime bien parler de tout ce qui est scénario. Donc là-dessus, tu étais de quelle école avec tes producteurs, notamment avec Charles Gasso? C'était des par étapes, vraiment, validation du synopsis, du traitement, la première version. Je ne sais pas quel processus tu mettais en place à chaque fois. Est-ce que ça variait suivant les films ou...
Je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de producteurs en France qui savent lire des scénarios, plus aujourd'hui peut-être qu'avant. Mais avant, c'était... La culture était, on est d'accord sur l'idée et puis on se retrouve au tournage. Nous, avec Vertigo, qui eux sont des producteurs de cette école-là, de lire les scénarios et tous décident de scénarios, on a beaucoup appris avec eux sur l'exigence des différentes versions.
D'accord.
Et ce que ça apporte.
Ils lâchaient pas, quoi. Il y avait des vrais débriefs.
Qu'on leur a apporté une version quasi aboutie, par exemple, je sais que sur la fin... ils étaient très exigeants sur le fait que cette fin devait donner envie de sortir du cinéma avec la banane. Et ils ont eu raison de ne pas nous lâcher alors qu'on pensait mettre quelque chose d'un peu plus... Une zone grise, un peu
plus... amer. Voilà. D'accord.
Et ensuite, je dirais que Gasso, qui était peut-être moins regardant sur le scénario, je crois que ça lui plaisait que nous, on le soit. Ça lui plaisait de savoir qu'on refaisait une version avant d'aller tourner. Qu'il y a quand même le défaut du cinéma français, qu'on reproche souvent aux films français, c'est qu'il y a un moment où il faut tourner. Je me souviens d'un réalisateur dont je tairai le nom, qui m'avait dit, juste après La vérité si je mens, j'aimerais bien vous faire lire un scénario, parce que je dois le tourner, mais ce n'est pas terrible. Ça manque d'une version, vraiment, on n'a pas...
Tu veux dire, parfois, il manque une étape de dev, quoi.
On shoot trop tôt, quoi. Et effectivement, on l'a lu, on trouvait que c'était vraiment très insuffisant, et on a voulu lui en parler. Il nous a dit, non, mais c'est bon, on a eu l'argent.
Ah oui.
Et donc, en fait, le fait d'avoir eu l'argent pour tourner, il avait plus d'ambition sur son propre script.
D'accord.
Et ça, c'est le problème de beaucoup de films en France.
Ça, c'est pas l'école Stanley Kubrick. Hein. Sur Shining, il révisait sa 9e version de script alors qu'il avait le financement.
Absolument. ou Charlie Chaplin qui restait des heures. Alors lui, comme les studios lui appartenaient, qui pouvait rester des heures et parfois des journées assis dans un coin avec l'heure qui tourne et le studio qui coûte un bras parce qu'il voulait changer des choses du scénario.
Si on parle de comédie, justement, toi, les inspirations ou les grandes comédies qui t'ont marqué, ça serait lesquelles, tu dirais ?
Alors, moi, je suis un fan de Woody Allen, donc notamment, je l'ai revu dernièrement et je trouve que c'est merveilleux.
Midnight in Paris ?
Non.
Coup de feu sur Broadway.
Coup de feu sur Broadway, oui. Dans sa période avec La Rose pourpre du Caire et tout ça, Broadway d'Annie Rose.
Là, il y avait vraiment des
oui, dans les débuts, quoi. Ou même dans les débuts de Scorsese, tu vas me dire sans doute aussi les premiers Scorsese.
Oui, alors pour la comédie, moins, mais...
Oui,
mais,
c'est, oui mais là, en c'est revanche, du drama, pardon. Oui.
Sidney Pollack, par exemple, Tootsie, pour moi, c'est ah, oui. un modèle de scénario...
Oui. Ou Un jour sans fin, évidemment.
Un jour sans fin, qui est la mécanique absolue. Et un autre qui est un peu moins connu, mais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Family Man.
Oui, avec Nicolas Cage. Ouais. Ah, j'adore ce film aussi, qui a aussi. Beaucoup de sens.
Ouais.
Qui est vraiment un super film. Qui avait réalisé Family Man ? Non, c'est un petit trou là.
Est-ce que c'est... je ne sais pas si c'est... Non, ça ne doit pas être Brett Ratner. Mais
si, je crois que c'est Brett Ratner qui avait fait Rush Hour. J'aurais tendance à dire ça aussi.
Je pense que c'est ça. Okay. Et c'est là aussi, on voit que... l'importance surévaluée qu'on donne aux réalisateurs, notamment dans les films américains, puisque le réalisateur n'a aucune importance dans Family Man. Il a fait Rush Hour et c'est pas lui qui a écrit Family Man. Mm. Et on voit bien que le script fait l'idée, le script fait tout. Et
les prod package coup, plus là-bas. Il y a moins le côté c'est le réal qui écrit son truc. Ils peuvent trouver un bon scénar. Et du coup, ça me fait penser à un quiz qui avait écrit Un jour sans fin, c'était Parole Ramis.
Il est co-scénariste.
Mais tu avais un autre scénar d'origine, ouais. J'imagine. Ouais. Et donc, tu es autant cinéma américain, anglais que français. T'es très
oui, éclectique. Moi, je suis un très, très grand fan de la comédie italienne des années 70.
Ah, oui.
Nous nous sommes tant aimés, par exemple, de Scola. Alors, le Fanfaron, moins, parce que je ne sais pas si tu l'as revu, mais...
Non, je ne l'ai pas vu
très
longtemps.
Difficile à revoir, quand même. Je trouve qu'il est... Là, pour le coup, il est assez surestimé, quand même. Il est charmant, mais il y a mieux. Il y a un film que j'ai découvert tardivement, il y a quelques années, qui s'appelle Une vie difficile de Dino Risi, avec Alberto Sordi, qui est un merveilleux film, une comédie douce-amère, très, très réussie, oui.
Bon, bah disons, c'est des sacrés titres. Et donc, ta passion du cinéma est encore intacte ? Tu me disais en off que tu trouvais les dernières années un peu dures quand même pour le cinéma.
Moi, j'ai une passion pour le cinéma dans le sens où j'ai grandi avec et j'ai connu, je ne dis pas l'âge d'or moi, mais en tout cas, j'ai vu ce qu'était l'âge d'or du cinéma avec des films merveilleux et qui peuvent, à mon avis, continuer
de nous accompagner. T'as une nostalgie un peu ou pas ? Pas forcément.
Non, parce que j'aime...
Tu vas dans le présent.
Voilà, et puis, il faut avancer. Mais je ne suis pas sûr que, dès le moment où le film est moins important pour la vie des gens, le cinéma saura capter la vie des gens. Voilà. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez artificiel dans les sujets qu'on nous propose au cinéma, je trouve, correspond moins à ce qu'on vit.
D'accord. Et donc, dans les derniers films qui t'auraient marqué, peut-être de quelques chocs quand même des 10 dernières années ou des 5 dernières années, il y a des trucs qui t'ont vraiment marqué ?
J'ai beaucoup aimé Drunk de Thomas Vinterberg. Et j'ai beaucoup aimé les films de comment il s'appelle, Robin Estlund.
Sans filtre, etc.
Lui, c'est vraiment super, quoi.
Oui, alors lui, il se lâche pour le coup. Hein. Là, pour tu parlais de période un peu polissée, lui, il y va, quoi.
Oui. Et en plus, il le fait... Rien n'est révolutionnaire parce qu'il va là où il sait que ça peut être... c'est des sujets parfois même rebattus. La critique de l'art, par exemple, elle a existé dans d'autres, dans The Square. C'est quelque chose, d'ailleurs, qu'on lui reproche. On lui reproche parfois d'être un peu... De taper là où c'est facile de taper. Mais c'est super bien fait. Et puis, ça dit quelque chose. Voilà,
c'est
ça
qui est... un côté jouissif. Moi, c'est vrai que sans filtre, j'ai trouvé que c'était quand même assez, assez fort. Même en termes d'expérience de... Comme tu disais, le cinéma... On revit comme une expérience vivante dans la salle. Ça fait du bien aussi de... Il se passe quelque chose, quoi. C'est pas, on n'est pas dans un truc plat, quoi.
Mais il y a des films, il y a un des plus beaux films que j'ai vu il y a quelques années, c'était Three Billboards.
Ah oui, c'était pas mal ça, avec le même acteur que d'ailleurs j'avais rencontré, notre ami, je vais avoir un trou sur lui, je peux pas avoir un trou, il est qui est le même acteur qui est dans Sans Filtre, qui jouait le capitaine. Là je vais faire des, on va le retrouver, il était avec Matthew McConaughey évidemment dans la série True Detective. Woody Harrelson, ça y est.
Woody Harrelson.
Bien sûr, Woody Harrelson, parce qu'on a croisé...
Formidable acteur.
Oui, car lui, pour le coup, un acteur vraiment barré et qui est quand même assez, assez magique. Et donc, oui, Three Billboards, c'était un très bon film.
Et j'ai beaucoup aimé, en français, Asbestas, enfin, qui est un franco-espagnol, je ne sais pas si tu
as vu. Ah oui, j'ai vu avec Marina Foïs, je voulais le voir, et l'acteur Denis Ménochet. Ça avait l'air bien, ça. Ouais, tu l'as vu, c'est il n'y a pas longtemps, ça.
Non, c'était l'année dernière. J'ai trouvé que c'était un film très abouti. Il y a des choses qui... J'ai beaucoup aimé Banshees of the New Erin. On a l'habitude de voir des ruptures amoureuses, mais là, c'était une rupture d'amitié. C'est un type qui décide de ne plus être l'ami de l'autre alors qu'ils vivent tous les deux dans une île. Et c'est assez radical. Avec Colin Farrell. D'accord. Non, c'est des très bons films. Mais...
Et Babylone, tout ça, t'as aimé?
Oui, j'ai bien aimé. C'est plus décoratif, Babylone.
T'as préféré La La Land, peut-être?
J'ai beaucoup aimé La La Land.
Ouais, moi, j'ai préféré La La Land aussi.
Beaucoup aimé.
Donc, non, mais en tout cas, on sent ton énorme passion. Ça reste ta grande passion, le ciné, ou tu mettrais l'Asie quand numéro?
Oui, mais j'y vais moins. J'écoute plus de musique que je vais au cinéma. J'écoute tout le temps de la musique.
Alors, tes goûts en musique, on a moins parlé de musique dans ce podcast, mais en quelques mots, les musiques qui t'ont inspiré.
Toutes sortes de musique. Je suis venu à des choses plus classiques et plus fondamentales parce qu'il faut que je me lève avec du Bach.
Ah, carrément. Ouais. Ah ouais, t'attaques sur Bach direct.
Direct. Ça remet le cerveau en place. Okay. C'est merveilleux. Et après, plein de choses différentes qui me plaisent. Là, je suis venu à vélo en écoutant J.J. Johansson. Un chanteur que j'aime bien. Oui, non, j'écoute toutes sortes de choses.
Tu dois adorer Clint Eastwood, non? T'aimes bien ou pas? Ah, t'aimes pas Clint Eastwood? Parce que je pensais à la rôle de la musique avec Kylie, son fils qui a... Mm. Ah, t'aimes pas trop Clint Eastwood? Ah, ça, c'est une exception, quoi.
Alors, je vais te dire un truc qui m'a frappé. C'est d'abord, je trouve que pareil, je trouve que c'est quelqu'un qui est surévalué. D'abord, surévalué dans le sens, il a fait des très bons films.
Il a fait des bons films quand même.
Mais il a fait beaucoup de très mauvais.
Ah oui, c'est pas faux.
Beaucoup de très mauvais. Je trouve que son personnage est extrêmement désagréable. et je vais donner une preuve de ça. C'est que vous regardez par hasard Sudden Impact, qui est un film, je ne sais pas si c'est lui ou Don Siegel qui l'a réalisé, dans cette période de l'inspecteur Harry, c'est inregardable aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est d'un racisme assumé, d'une vulgarité, d'une violence, mais le racisme anti-noir, et ça n'est pas supportable, quoi, parce que c'est totalement assumé. C'est Clint Eastwood qui, à un moment donné, tue froidement, je ne sais combien, il doit y avoir 5 ou 6 noirs dans un café, qui sont censés être des méchants à qui il ne donne aucune trace d'humanité. C'est pas possible, quoi.
C'est en premier degré, il n'y a même pas de recul dessus.
Absolument. Alors si, le recul, c'est qu'on ricane, parce que c'est dans ce film où il fait cette fameuse réplique « Make my day » en visant quelqu'un qui...
D'accord,
qui,
voilà. « Make my day ».
Make my day.
Ça vaut moins l'évadé d'Alcatraz, ça c'était peut-être mieux.
Il a fait des bons films. Moi j'aime beaucoup, même le pont de Madison, je trouve que c'est... Ouais. Mais d'abord, il faut remettre les choses aussi à leur place. Il était réalisateur, il n'a jamais écrit un de ses films, alors qu'on ne cesse d'en faire un auteur. Il le dit lui-même, on lui donne un script qui traîne depuis 3-4 ans dans un tiroir, et on lui dit, est-ce que tu ne veux pas le réaliser? Et c'est quand même le cinéma américain en général, où la presse française continue de nous faire croire que...
Je te trouve un peu dur avec lui, il en a fait des bons quand même.
Non. Mais remettons-le à sa place.
Il réalise. Là, par contre, ce qui est pas faux, c'est qu'il en a fait beaucoup.
Il réalise des films. Il a plus de 80 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il les réalise assis au fond d'un fauteuil avec la position d'un réalisateur américain, c'est-à-dire que je ne sais même pas s'il va au montage.
Voilà. D'accord. Il shoot très vite. Hein. Il a toujours cette répute de shooter très vite.
Après
Woody Allen, on peut aussi dire qu'il en a fait quelques-uns de très bons et pas mal de pas terribles.
Souvent au-dessus de la plupart.
Et Spielberg, tu l'aimes bien quand même.
J'aime beaucoup Spielberg, mais pareil, je trouve qu'il y a des films formidables. Et puis
tu l'as trouvé exagéré, ce qu'on a dit du dernier. Je sais pas ce que t'en as pensé.
J'ai pas détesté. J'ai beaucoup aimé le personnage de la mère. J'ai trouvé qu'il était assez sensible. Il y avait beaucoup de choses un peu convenues sur le cinéma américain, mais je trouvais que.
Il se dévoilait.
La famille était intime. Bien. Les parents sont formidables dans ce film. Je trouvais que
tu dois adorer quand c'est des films qui parlent de la famille aussi. Little Miss Sunshine, t'as dû beaucoup aimer.
Pas mal aussi.
Okay.
Le côté un peu burlesque, je me détache un peu, mais je trouvais que moi j'aime bien, quand ça parle des gens, quoi.
Ok.
Et quand c'est des gens qui n'ont pas forcément des super pouvoirs.
Et Mon beau-père et moi, t'aimes bien? C'est un must pour toi?
Oui, c'est pas mal.
C'est quand même un bon film. Et ben Michel, c'est super d'avoir balayé toute cette période avec toi. La toute dernière question que je pose, c'est plutôt les deux dernières en l'occurrence, c'est la question que je pose aux invités sur tes goûts en matière de musique, de ciné, de série, une ou deux BD. Ça peut même être quelque chose qui sort de l'ordinaire, une expo, quelque chose qui te marque.
Alors moi, En matière de séries, il y en a beaucoup des très très bonnes.
On n'est pas trop allé sur les séries dans ce podcast.
Mais j'en mets une tout en dessus de toutes les séries. Voilà. et mais qui est connu, hein, qui est The Americans.
The Americans.
Voilà, okay. Qui est de, ce couple de d'espions russes cachés en une famille américaine où il y a 5 saisons, je crois, et qui pour moi est le summum de la série, parce que je crois que rarement on est allé aussi loin dans à la fois le romanesque, ça va très très loin, ce qui se passe, enfin, ça ne retombe pas sur ses pieds. Ce que je reproche un peu aux séries, même les très bonnes Breaking Bad, et c'est qu'on retombe toujours sur le même schéma. La dernière, c'est Succession. Succession, on tourne en rond, c'est-à-dire depuis le début, on a toujours le même problème qui revient d'une manière un peu différente.
Ça manque un peu de gradation, quoi, comme tu dis.
Mais on ne sort jamais, on n'est jamais dans le grand bain. On est toujours au bord près du bord et on nage un peu et on revient.
T'as aimé le grand bain d'ailleurs ?
Ouais, c'était bien.
T'as trouvé ça bien. Oui, okay.
Mais voilà, et alors que
Americans, s'il réussit à
ce qui se passe au début, on peut pas imaginer où on en est à la 5e saison, parce que ça va très très loin, quoi. J'ai adoré cette série. Je trouvais que c'était d'une écriture très très bien jouée.
En t'écoutant, je pensais aussi à Six Feet Under, Alan Ball. Tu dois aimer American Beauty. T'as aimé?
Voilà. J'ai adoré.
Moi, j'ai adoré. Moi, c'est un de mes films cul. Ouais, adoré, t'as dit là. Ouais, la différence beaucoup... de plein d'autres. Moi aussi, je l'ai adoré. Je le mets très haut, moi aussi. Hein.
Parce qu'aussi, c'est subversif, parce que ça raconte l'époque, mais ça dit des choses. Ça prend des risques, voilà, dans la narration. On ne fait pas les choses pour qu'elles soient consensuelles.
C'est un sacré film.
Le personnage du voisin qui surveille avec la caméra et tout. Je trouve le père de ce voisin qui est quand même très particulier. Voilà,
C'était fort de faire un film, je trouve, aussi fort sur vraiment la cellule familiale, et un film, moi aussi, qui m'a énormément marqué adolescent.
Je pense qu'aujourd'hui, il est quasiment plus passable, quoi.
Déjà, l'acteur principal, malheureusement, a eu des déconvenues. Bon, pourtant, c'est un sacré acteur, quand
merveilleux,
même.
Merveilleux, d'un seul coup, on en fait un monstre. Et puis, alors qu'il a eu un non-lieu, en plus, dans cette histoire. Ça, c'est un... Et puis, le regard qu'il a sur une jeune fille mineure, quoi. Majorette, aujourd'hui, c'est terminé. Il y a une négation totale de ce désir, même s'il est condamnable, ce
et
désir.
Et pourtant, mais... il passe pas à l'action. C'est ça qui est fort, dans American Beauty, c'est que de lui-même, à la fin, il ne fait rien.
Ouais.
Donc, ça racontait juste un sentiment, pas finalement quelque chose de condamnable.
Oui, le problème, c'est que ce sentiment, maintenant, doit être...
réprimé. Absolument. Mais par contre, il en parlait, Spielberg, récemment, on disait que maintenant, tu as vu les trucs où ils recolorient, ils veulent revenir sur les historiques des films. Ça, c'est grave, je trouve, de réécrire... des rôles dont on dit qu'ils sont... Comme ce que tu disais, l'exemple de Clint Eastwood. Pour moi, juste au contraire, c'est le témoin que ça a existé. C'est plutôt bien d'avoir un recul là-dessus.
Oui, c'est-à-dire que pour moi, si ça gêne les gens, on passe pas le film, mais on ne modifie pas le film.
Oui, puis si ça fait un côté, je trouve, comme du négationniste. Ça veut dire que tu vas revoir l'histoire telle qu'elle a existé. C'est comme ça qu'on tire des leçons, je trouve, pour le présent. Quoi.
Dans un des premiers Tarzan, qui pourtant est un personnage très populaire, il y a une scène où il est en train de se balader avec le professeur, avec sa fille, et ils ont des sherpas, ils sont en train de gravir la colline, et à un moment donné, deux des indigènes qui portent les valises tombent, parce qu'il y a un éboulement, et ils tombent dans le précipice, et le professeur se penche et dit « No mal ».
Comment tu dis ?
Nos bagages.
Nos mal, ouais, ok. Bah,
et on a perdu nos bagages, tu vois. Alors qu'il y a 2 Sherpas indigènes qui viennent de tomber dans le vide.
Et j'ai compris.
Et c'est le seul truc à... Okay. Bah, aujourd'hui, oui, ce serait compliqué, mais c'était comme ça que les gens réagissaient. Ça montre effectivement le peu de considération que les Blancs avaient.
Moi, c'est ce que je ne comprends pas sur ce débat, c'est qu'on est dans la création. Et la création, heureusement qu'elle doit avoir un regard. On n'est pas dans une lettre de morale, quoi.
Bien sûr.
C'est là où je trouve qu'aussi, c'est un peu étrange, ce genre de débat. Mais bon,
si on veut voir ce qu'était une époque, il faut qu'on nous montre cette époque. Il ne faut pas qu'on la
figure. Exactement. Et tu penses qu'on est menacé par tous ces sujets d'intelligence artificielle? Je pensais par les créatifs. Tu penses qu'ils sont menacés ou que c'est un faux débat, toi?
Non, moi je pense qu'on... Enfin, menacé, je pense qu'on ne peut rien y faire, et que j'ai vu là une pub pour Coca-Cola entièrement faite à l'intelligence artificielle, et je pense que oui, il y a beaucoup de métiers qui vont disparaître.
Sur le scénar, il faut y aller quand même. Même si là, il y a des grèves importantes de scénaristes à Hollywood sur le sujet, comment tu l'expliques? Tu penses sur le script, ça peut vraiment arriver ou... Parce que script, au mieux, c'est un outil pour te donner un peu des guidelines ou des structures, mais de là à avoir une originalité de scénario à la American Beauty, il faut se lever de bonheur.
Non, oui, mais est-ce qu'on voudra des films comme ça? Le problème, c'est qu'on voudra?
Ça, c'est un autre débat.
Moi, je pense que l'homme a, depuis trop longtemps, abandonné aux machines ses propres...
Terminator.
Ouais. Et donc, on a ce qu'on mérite. C'est-à-dire que maintenant, on a laissé trop de... Je veux dire, quand on voit que... Je vais faire un, vraiment, c'est un truc bateau, mais Beethoven, il composait sourd sur un papier sans pouvoir écouter quoi que ce soit. Aujourd'hui, un compositeur, en temps réel, il entend sa musique orchestrée. Donc, ça veut dire que ce sont les machines qui ont pris le...
Qui font gagner du temps.
Voilà. Mais ça veut dire que si elles font gagner du temps, bah, peu à peu...
Ça a mûri moins. Alors, c'est marrant ce que tu dis. C'était, il avait la même thèse que toi. J'avais vu James Gray, ça m'avait marqué. Lui, c'est un bon, t'aimes bien, j'imagine. Ouais, ouais. La nuit nous appartient. We Own the Night. Je trouve j'ai adoré ce film, moi,
très bon,
avec Joaquin Phoenix. Et il disait, James Gray, c'était une conférence au Forum des Images, il parlait de ça. Il disait la notion de craft, parce qu'il parlait de Robert Duvall ou des acteurs d'avant. Il disait c'est des acteurs qui ont quand même pas mal roulé leur boss avant de créer. Et il disait aujourd'hui, le risque, c'est ce truc de l'instantanéité où ils disent, on envoie plein de petits courts-métrages, mais ça manque un peu de pensée, de conception, etc. Et donc ça va un peu avec ça, sur ce sens de la durée de ce que tu racontes de Beethoven, où c'est un peu plus besogneux. Mais à l'arrivée, il en sort quelque chose d'original et de créatif. Donc je pense que la créativité, elle est indissociable de ce labeur. Enfin, la bonne créativité pour moi, en tout cas.
Et puis en plus, la machine, nous on le sait au cinéma, le montage se fait, la possibilité maintenant qu'on a de multiplier les plans, les points de vue, et qu'on ne décide qu'au dernier moment, alors qu'avant on prenait des parties, on montait ce qu'on avait tourné en fait. La plupart du temps, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire 50 prises. Et aujourd'hui, tout est possible au tournage. Donc, on fait toutes les prises. Et puis, au montage, on ne sait pas, on les met toutes. Et puis, ça...
Du coup, il manque le point de vue du réel. Parce que quand même, la définition du réel, c'est quand même où je mets la caméra et comment je raconte mon histoire, le point de vue, quoi.
Et donc, quand il n'y a pas ce point de vue-là, et ben, les machines peuvent faire la même chose. Donc,
bon... Exactement. Après, espérons qu'il y ait encore des Ruben ou des artistes qui vont donner des films audacieux. Maintenant, comme tu dis, il faut les trouver entre...
Surtout, espérons qu'on ait des décideurs qui auront courage d'accepter ces artistes.
Ou des producteurs, en tout cas, qui ont un peu plus d'audace, de courage, comme ceux de la... Moi, j'avais rencontré Alain Corneau, j'avais eu ce débat avec lui dans sa... Non, tu l'avais rencontré lui, j'imagine.
Non, je sais pas. Enfin, je l'ai rencontré, mais je le.
C'est un personnage assez marquant dans sa bibliothèque et tout ça, dans le Marais. Et c'est vrai que il m'avait beaucoup parlé de ça. Cette génération de producteurs qui, à l'époque, effectivement, il y avait un côté prime à l'audace et à l'artistique où ils pouvaient imposer. C'était la phrase du Arnon Milstein de Brésil, où on lui avait dit coupe la fin. Il avait dit non, over my dead body. Et il était passé en force. Mais je sais pas si ça pourrait.
Aujourd'hui, qui aurait le cran de faire ça? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. Bah écoute, nous, si un jour on peut le faire, on verra. Mais c'est, en tout cas, je pense que oui, c'est le diffuseur. Tu crois que les diffuseurs ont beaucoup plus de poids qu'en production?
Je ne sais pas, mais de toute façon, demain, on verra comment même les films seront diffusés. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut faire le film qu'on veut, sans concession, on peut
le faire. Moi, je pense que c'est un truc d'offre aussi, entre nous. Alors, ça fait un peu de débat, c'était mieux avant, mais c'est comme dans la musique. Enfin, il faut aussi, comme tu l'as dit, les créatifs qui prennent un peu plus de temps, les producteurs qui développent leurs trucs. Tu vois, je ne peux pas croire qu'il y ait plus de gens comme ça.
Mais... Non, mais si tu n'es pas d'accord, à la limite, tu peux le faire. Tu peux faire aujourd'hui ton film, le proposer sur YouTube, être marqué et ne faire aucune concession. Et je pense que ça, c'est une qualité de notre époque. C'est qu'il y a un système qui est, à mon avis, de plus en plus sclérosé, qui est de plus en plus corseté. Et puis, à côté de ça, il y a une explosion de...
Oui, des tuyaux, des canaux de diffusion.
Bien sûr.
Des canaux... Bon, écoutez, les spectateurs, les auditeurs se feront leur propre débat sur la question qui est sans fin. Et la toute dernière question, c'est le conseil que tu donnerais à un auteur ou une autrice, justement, qui se lance aujourd'hui sur l'écriture, sur de ce que tu as connu, toi, sur le scénar.
Je dirais que qu'elle garde le plus longtemps possible son idée, si elle est forte de son idée, ou s'il est fort de son, s'il est convaincu de son idée, qu'il la garde et qu'il la développe le plus possible sans la confronter à qui que ce soit. Parce que ce que j'ai appris, c'est qu'en fait, dès que tu parles de quelque chose, d'autant plus d'original à quelqu'un, la première réaction, c'est relativiser ton idée, c'est dire « mais t'es sûr que tu crois pas que... » Et au fur et à mesure, on émousse ton enthousiasme. Et je crois qu'il faut... Je dis ça, ça fait un peu
vieux
professeur, mais sur la vérité, si je mens, on a passé, Gérard et moi, 4 ans de refus. Mmh. Et ces 4 ans de refus nous ont vraiment forgé la conviction qu'il ne fallait
pas lâcher.
Pas lâcher. Et surtout pas se laisser influencer par des gens qui aiment moins ce que tu fais et te font en plus des propositions pour le modifier. Il ne faut surtout pas rentrer là-dedans.
Donc, il faut tenir et garder son cap et tenir son idée, comme tu l'as dit.
Je pense que quand l'idée est bonne, une idée bonne est une idée originale qui n'a jamais été faite avant. Or, les gens ne fonctionnent que par rapport à ce qu'ils connaissent. Et donc, s'ils la connaissent, c'est un bon signe que la personne te dise « Mais c'est quoi ce truc-là » Parce que là, ça veut dire effectivement que ça n'existe pas.
Michel, merci beaucoup. C'était un plaisir de t'accueillir pour ce podcast de l'Entertainment Lab. Merci à toi. Merci beaucoup.
Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés. Pensez à aller mettre une note au podcast dans la section notes et avis sur Apple Podcasts. Cela nous ferait énormément plaisir et nous permettrait de continuer à faire grandir ce podcast consacré au Brain Entertainment. À bientôt pour un nouvel épisode.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.